cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 16 décembre 1987.
Tu restais, je crois, à l'adoration la dernière fois. C'est-à-dire essayer de comprendre comment, au point de vue éthique religieuse, l'expérience de l'adoration doit être pour nous la manière de voir. Affective, morale prend une nouvelle dimension. Et si c'est à partir de la responsabilité que se noue la plupart du temps le sens moral, c'est la responsabilité. J'ai la responsabilité de telle ou telle chose, ça me donne le sens moral. Cette responsabilité, elle prend toute sa dimension dans l'ordre de l'amitié. L'ami est responsable de son ami. C'est pour ça que quelquefois il n'endort plus. Parce qu'il est responsable de son ami. Quand il voit que son ami commence à faire des bêtises, ça va plus. Et cette responsabilité à l'égard de l'ami va impliquer aussi tout le sens de la justice, le respect. Il faut respecter ses droits et respecter ce qu'il est. Et je le respecte fondamentalement, même si de fait il part dans une orientation qui n'est pas la mienne, je respecte le respect qui est la conséquence même de la responsabilité. Toujours ces deux aspects. Quand il s'agit de l'adoration, quand il s'agit de l'attitude religieuse de l'adoration, la responsabilité est tout à fait différente. La responsabilité de la créature, c'est de reconnaître les droits absolus du créateur sur lui. Et c'est bien dans l'adoration que je réponds à cette responsabilité. Je reconnais que Dieu est le maître souverain. Et je vous disais que dans l'adoration, il y avait cet élément de connaissance à l'égard de Dieu qui est absolument essentiel. C'est pour ça que je peux distinguer une adoration qui reposera sur les traditions religieuses. La connaissance que j'ai de Dieu, ce sont les traditions religieuses. Sur une connaissance de Dieu beaucoup plus élaborée, qui est une connaissance philosophique, où je vois que Dieu est nécessairement le Dieu unique et ne peut être que le Dieu unique, ou le point de vue de la foi. Je crois que ce sont les trois dimensions d'adoration. Et voyez que là, le point de vue de la connaissance, au sens rigoureux, conditionne l'adoration, mais ne la spécifie pas. Qu'est-ce qui spécifie mon adoration? C'est le mystère même de Dieu comme créateur. C'est Dieu créateur qui détermine mon adoration. Et la connaissance que j'ai de ce créateur modifie, conditionne mon adoration, mais ne la spécifie pas. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'alors, autrement, vous diriez que l'adoration de celui qui vit des traditions animistes, l'adoration du philosophe qui a précisé, et l'adoration du croyant, du chrétien, ont trois types d'adorations différentes. Est-ce qu'il y a trois vertus religieuses? Trois vertus de religion, non, une seule. Mais elle est plus ou moins parfaite. Donc on est dans l'ordre du plus ou moins parfait. Il est évident que l'adoration de celui qui n'a que les traditions animistes, je prends celle-là parce que ceci, ça me fait penser à l'Afrique. Alors, dans ces adorations, on voit très bien qu'il y a des quantités de choses qui ne sont pas exactes. Surtout dans la liturgie. C'est très curieux. L'adoration elle-même pourra rester juste, mais l'adoration va tout de suite, et ça nous le verrons après, va tout de suite se mêler à une certaine liturgie. Et c'est dans la liturgie qu'on verra les aspects passionnels se manifester, même dans la vie religieuse. Ce n'est pas l'adoration. Si vous restiez tous dans l'adoration et dans le silence, on serait tous paisibles. Parce qu'on est tous paisibles quand on est en face de Dieu. On est tous d'accord quand on est en face de Dieu, puisqu'on n'a plus qu'à se taire. Et que l'adoration nous met dans le silence. Une adoration profonde vous met dans le silence. Quand vous adorez Dieu, vous n'avez pas envie de parler. Si vous avez envie de parler, ça ne vous fait pas l'adoration. Tant que vous n'avez pas touché ce silence substantiel, conséquence de l'adoration, vous ne savez pas ce que c'est que l'adoration. Quand on est en face de Dieu, on n'a pas envie de parler. Si vous avez envie de parler, ça prouve que ce n'est pas l'adoration. Je regrette. Et quand on est en face de Dieu, vraiment en présence de Dieu, on est celui qui s'offre à Dieu. La responsabilité profonde que j'ai lorsque je comprends Dieu, je m'offre à Dieu. C'est pour ça, vous voyez, que les connaissances que vous avez de Dieu modifient votre adoration. Mais ne spécifie pas votre adoration. Votre adoration est déterminée, spécifiée par le mystère même du Créateur, que vous atteignez de façon plus ou moins propre, plus ou moins précise. Mais c'est le mystère même de Dieu. Et ça, c'est très important pour comprendre le caractère propre de l'adoration et comprendre ses modes particuliers. Donc, l'adoration regarde directement le Créateur dans sa présence au plus intime de moi. Je suis totalement dépendant de lui. Il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. C'est pour ça qu'il me voit. Et c'est pour ça que je lui remets tout entre ses mains. Je disparais entre ses mains et je désire disparaître entre ses mains pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon Créateur. L'adoration tend vers ça, vous voyez. Elle tend vers ce silence intérieur. Ce que je vous disais, l'attitude mystique. Il y a une certaine mystique de l'adoration. C'est d'entrer dans ce silence intérieur où je suis en présence de la source de tout mon être, de toute ma vie, de toute mon intelligence, de tout mon amour, et je m'en remets entièrement. Et je comprends que ce geste et que cet acte a une profondeur infinie. Je peux tout le temps aller plus loin dans l'adoration. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai compris ce que c'est que l'adoration, qu'est-ce que vous allez dire après ?» Ça prouve qu'il n'a pas compris. L'adoration a quelque chose d'infini. Vous pouvez aller toujours plus loin dans l'adoration. C'est pour ça qu'au fond, vous vous considérez toujours, si vous êtes vrai, dans l'adoration, comme étant des commençants. Nous essayons d'adorer, nous sommes des novices de l'adoration. Et nous sommes toujours très maladroits. Parce que si on adorait vraiment, on devrait être plongé complètement dans l'adoration et d'être dans le silence de Dieu, dans le silence du Créateur, qui vous enveloppe de son amour, puisque c'est cet amour qui vous crée, qui vous enveloppe de sa lumière, puisque c'est dans sa sagesse qu'il vous crée. C'est très important de saisir l'absolu du geste de la création, du geste de l'adoration. Donc, la connaissance est un élément essentiel. Mais ce n'est pas la connaissance qui détermine. C'est Dieu lui-même qui, comme créateur, m'attire et exige de moi cette attitude de remise entière de tout moi-même. Alors c'est là où je touche ce qu'il y a de propre à l'adoration. L'adoration, c'est remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. C'est remettre tout ce que nous sommes entre les mains de Dieu. C'est donc accepter de n'être rien entre les mains de Dieu. puisque de fait, nous sommes créés à partir de rien. Et donc, si vous remontez à l'acte créateur de Dieu sur vous, vous remontez à ce premier instant de la création, ce premier instant d'éternité que vous pouvez rejoindre affectivement. Nous n'expérimentons pas l'éternité, mais nous savons que nous pouvons remonter à cet instant d'éternité qui me lie au Créateur. Et je me remets entre ses mains. C'est pour ça que l'adoration fait que je m'efface totalement en face de Dieu. Oui. Salutation à l'égard de Dieu. C'est en ce sens-là qu'on peut comprendre que l'adoration, c'est une attitude de justice à l'égard de Dieu. Je me mets dans la vérité. Qu'est-ce que je suis en face de Dieu? Rien. Puisque Dieu m'a tout donné. Comme créateur. Je n'ai rien de moi-même. La seule chose que je peux offrir à Dieu, c'est ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné l'être. Il m'a donné la vie, il m'a donné l'intelligence, il m'a donné ma capacité d'aimer. Ceci vient directement de Dieu. Et parce que ça revient directement de Dieu, je m'en remets entièrement à Dieu. Et vous voyez, j'offre ce qui vient directement de Dieu. Alors, je le sais plus ou moins, une connaissance pratique plus ou moins précise, mais je peux, en philosophie religieuse, qui présuppose une connaissance la plus parfaite que nous pouvons avoir de Dieu, je dis que je remets mon être, ma vie, mon âme, mon intelligence et ma capacité d'aimer. Voilà ce que vous remettez à Dieu. Dans l'adoration, vous ne remettez pas en premier lieu ce que vous avez fait. Seigneur, je vous apporte le fruit de mon travail. Vous voyez ce qu'on dit de temps en temps, les fêtes d'adoration, ce serait que l'agriculteur apporte à Dieu la gerbe de blé, que le vigneron apporte à Dieu la première grappe de raisin. C'est très beau ça. Est-ce que c'est l'adoration? Ou est-ce que c'est la louange? Vous voyez la différence? Offrir à Dieu les prémices de la terre, les prémices de son labeur. Bon, la première gerbe de blé, la première grappe de raisin. Je dis pas la bouteille, mais la première grappe de raisin. Offrir à Dieu la première roue, porte que j'ai faite. On offre à Dieu tout ça. On offre à Dieu son œuvre, le fruit de son labeur. Offrir à Dieu le fruit de son labeur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un acte d'adoration ou est-ce que c'est un acte liturgique de louange, de remerciement et d'action de grâce? Posez-vous la question. Ça vaut la peine. Quand on offre à la messe le fruit du labeur, le pain, le vin, est-ce que c'est un acte d'adoration? Ou est-ce que c'est un acte de louange et de reconnaissance et d'action de grâce? Je crois que c'est un geste qui présuppose l'adoration, mais qui n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est vous offrir vous-même la source de vos capacités. Ça va beaucoup plus loin, c'est un acte substantiel. Hein. Offrir le fruit de son travail, c'est offrir son œuvre. C'est très bien, c'est très beau. C'est un acte de louange, de remerciement, d'action de grâce. C'est pas l'acte d'adoration. Et ce qui fait comprendre comment l'acte d'adoration est silencieux, alors que l'acte d'action de grâce de louange, de remerciement implique toute liturgie. L'adoration est au-delà de la liturgie. C'est quelque chose de plus fondamental que la liturgie. Toute la liturgie repose sur l'adoration. Et la qualité de votre liturgie dépend de la qualité de votre adoration. C'est pour ça qu'il peut y avoir une mystique de l'adoration et qu'il n'y a pas de mystique de la louange. Parce que c'est quelque chose de second. Or, qui dit mystique, il dit quelque chose de fondamental et de premier. C'est mon contact fondamental et premier avec Dieu. Je crois bien, hein, j'avance en disant ce que je pense, mais comme ça a été très peu développé, ces choses-là, au plan philosophique, au plan éthique religieux, ça a été très peu développé. Je peux pas vous envoyer, oui, à l'étude du sacré d'Otto, c'est très bien, le sacré, mais c'est vu pas dans ce qu'il a de tout à fait radical. C'est très vrai que c'est le sacré qu'on offre à Dieu. Le sacré, c'est ce qui dépend immédiatement de Dieu. Et sacré en moi, ce qui dépend immédiatement de Dieu. C'est ça qu'on offre dans l'adoration. Ce qui est immédiatement en dépendance de Dieu. Et l'adoration, c'est reconnaître cette dépendance à l'égard de Dieu et l'aimer pour être plus en dépendance de Dieu. Pour aimer plus cette dépendance et reconnaître que Dieu est tout en moi. Et reconnaître que je suis tout entier relatif à Dieu dans cette dépendance. C'est ça l'acte d'adoration. C'est un acte d'amour qui reconnaît ma dépendance et qui aime cette dépendance. Et qui me met à l'égard de Dieu dans cette relativité absolue. Relativité substantielle. Tout mon être qui remet à Dieu. Toute ma vie, toute mon intelligence, toute ma capacité d'aimer. L'adoration est donc un acte d'amour, de volonté. J'adore quand je veux adorer. Et celui qui dit, ah, je peux pas adorer à certains moments. Ça prouve que vous manquez de volonté. Tout simplement. Vous êtes complètement inhibé par votre imaginaire. On peut toujours adorer si on a suffisamment de volonté. Et je suis tout à fait d'accord que c'est un acte de volonté. Ce n'est pas un acte imaginaire. Alors, si vous avez la spiritualité du planeur, vous n'adorerez jamais. Oui, la spiritualité du planeur. Aujourd'hui, le vent est à l'est. Aujourd'hui, le vent est au sud. Aujourd'hui, le vent est à l'ouest. Alors, je me mets dans le sens du vent. Il y a des quantités de personnes qui vivent comme ça. Ça, c'est la spiritualité du planeur. Alors, celui-là n'adore jamais. Parce que le vent représente une des modalités des effets de Dieu. Symboliquement, vous comprenez bien. Il faut remonter à la source. On n'adore que quand on remonte à la source. Et quand on remonte à la source, on y remonte volontairement. Tout être humain, qui est un être véritablement humain, a développé. Hein, pas qui est dans son berceau. L'enfant dans le berceau n'adore pas. Alors, si vous restez éternellement dans le berceau, et que vous restez avec ce qu'on appelle, n'est-ce pas, ce retour au berceau, cette maladie de retourner au berceau, ça arrive à tous les âges. Donc ça arrive même au noviciat. Je vois que le Père Maître s'occupe plus d'un autre que moi. Oh, je vais retourner au berceau. Comme ça, il sera bien obligé de venir dans ma cellule. Il sera bien obligé de venir voir que je ne vais pas. Il sera bien obligé de faire la petite visite tous les jours. Je ne serai plus obligé d'attendre à sa porte. Parce que je suis dans le berceau. Vous voyez ? Ça, ça arrive, ça. Mais ce n'est pas du tout un acte volontaire, ça. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui, par jalousie, nous fait faire ça. C'est terrible. Il faut lutter contre ça. faut arriver petit à petit à comprendre ce que c'est que le volontaire. Mais il y a d'éthique au niveau volontaire. Et il y a un volontaire religieux qui est propre. Et le volontaire religieux qui est propre consiste à s'offrir soi-même en acte d'adoration. En acte de l'holocauste. On offre sa vie, on offre son être, on offre sa capacité de connaître, sa capacité d'aimer. Et on demande au feu du ciel de tout brûler. C'est ça le propre de l'adoration. On coopère avec Dieu créateur. C'est infiniment grand. On coopère. Je ne peux pas adorer sans que Dieu soit présent. Et comme Dieu est toujours présent, et c'est moi qui ne suis pas toujours présent, dès que je veux adorer, je me mets dans cette présence. C'est pour ça que l'adoration me donne une présence de Dieu. L'adoration s'achève dans une présence de Dieu. Dieu est présent. Je ne le vois pas, c'est bien évident. Dieu est un Dieu caché. Mais il y a une présence de Dieu. Et l'adoration, quand elle se multiplie, quand elle prend possession de toute ma vie, me met dans une attitude d'abandon. On va essayer de regarder ces choses successivement. Avant, je voudrais avec vous regarder dans saint Thomas. Hein, nous faisons la même chose que pour la substance. Mais d'une autre façon, ce sera plus facile. Regardez dans saint Thomas, parce que c'est intéressant, c'est toujours pour essayer de comprendre notre point de vue philosophique. Regardez dans saint Thomas, dans la Prima Secundae, son traité question 80, les parties potentielles de la justice. Nous devons étudier maintenant les parties potentielles de la justice, c'est-à-dire les vertus qui lui sont annexes. Quelles vertus sont rattachées à la justice? Ce qu'il faut savoir de chacune d'elles. Alors, c'est très intéressant de voir qu'on rattache à la justice la vertu de religion. Vous allez voir tout de suite. Il nous faut maintenant étudier chacune des vertus dont on vient de justifier le tableau pour autant que notre programme l'exige. Alors, ce qu'on a vérifié avant, vous voyez, c'est de voir les différentes parties potentielles de la justice et de voir comment la vertu de religion était une partie potentielle de la justice. On comprend très bien, puisque la justice regarde l'autre. Alors l'autre, c'est Dieu. C'est le transcendant. Vous voyez comment saint Thomas étudie ça? Il étudie en théologien. Et donc il étudie la vertu de religion comme une partie potentielle de la justice. On n'a pas parlé de ça du tout jusque maintenant. Alors, si j'étais uniquement scolastique, je dirais, c'est à partir de saint Thomas que je vais étudier la vertu de religion. Mais la vertu de religion, comment la connaissez-vous au plan philosophique? Comment connaissez-vous la vertu de religion? Posez-vous la question. J'étudie la vertu de religion par des actes religieux. La vertu de religion n'est pas donnée du ciel, c'est une vertu acquise. On devient religieux. En voulant être homme parfait, on devient religieux. C'est l'homme qui, dans sa dimension profonde, implique l'attitude religieuse. Il y a bien la vertu infuse. Et ça qui vient de la grâce. La vertu acquise de religion s'acquiert par des actes. Tandis que le théologien, lui, regarde dans la foi l'homme. Et dans la foi, il peut dire tout de suite que l'homme est un être religieux. Et dans la foi, il peut tout de suite dire, il y a la vertu de religion qui fait partie de la justice. Alors, le théologien, lui, va étudier, c'est ce que dit saint Thomas, question 81. Il nous faut maintenant étudier chacune des vertus dont on vient de justifier le tableau pour autant que notre programme l'exige. Nous verrons successivement la vertu de religion, la piété, l'observance, la gratitude, la vindique, la vérité, l'amitié, la libéralité, l'équité. Vous voyez que c'est toutes ces parties de la vertu de religion qu'on regarde. On ne va pas voir ça en philosophie. C'est intéressant de voir ce tableau. C'est assez impressionnant, du reste. Hein. Sur la vertu de religion, trois choses à considérer. La vertu en elle-même, ses actes, les vices. Et alors, quand on regarde la vertu de religion, on va regarder progressivement ce que représente la dévotion. Nous abordons maintenant l'étude des actes de religion. Premièrement, les actes intérieurs. Deuxièmement, les actes extérieurs. Les actes intérieurs sont la dévotion et la prière. Nous avons à traiter donc successivement de la dévotion et de la prière. Et après avoir étudié ce qu'est la prière, il va étudier les actes extérieurs de la vertu de religion. Les actes extérieurs de la vertu de religion sont justement l'adoration. Étudions maintenant les actes extérieurs de la latrie. Alors vous voyez, je voudrais vous donner ça pour que vous compreniez mieux. Si je ne le fais pas avec vous, un jour vous regarderez saint Thomas, vous direz, mais on a regardé en philosophie l'adoration en premier lieu. Saint Thomas nous dit quelque chose de tout à fait différent. Comment comprendre ça? Donc nous partons de la vertu. Alors mettez bien nota bene saint Thomas. Et puis vous pourrez renvoyer dans cette étude-là. Ça vaut la peine, hein? C'est intéressant. Nous avons la possibilité d'avoir tout le temps un double regard. Un regard philosophique, un regard théologique. Nous avons deux yeux. Nous ne sommes pas des cyclopes. Nous avons deux yeux. Nous avons un œil philosophique, un œil théologique. Donc il faut s'en servir pour avoir le relief. Donc la vertu de religion. Chez saint Thomas, prima pars, prima secundae, je veux dire, non, secunda secundae, question 80. Alors, il nous dit, il étudie donc d'abord la vertu de religion, puis il étudie les actes intérieurs de la vertu de religion. L'acte intérieur de la vertu de religion, c'est premièrement la dévotion. Deuxièmement, la prière. Puis acte extérieur de la vertu de religion. Adoration. Alors il dit l'adoration, et voyez pourquoi il dit un acte extérieur. L'adoration où l'on emploie son corps à rendre hommage à Dieu. L'adoration va impliquer le corps, d'où acte extérieur. Quand vous adorez, vous vous prosternez devant Dieu, acte extérieur. les actes où certains de nos biens extérieurs sont offerts à Dieu, ceux où les choses divines viennent à notre usage. Alors, après l'adoration, voyez tout de suite que nous avons le point de vue de l'oblation. Donc, c'est-à-dire sacrifice. Donc, l'adoration va s'achever dans les sacrifices et dans le point de vue des oblations et les prémices. Dans l'ordre de saint Thomas, il va ajouter aussi les dîmes. Voilà. Alors, il faut justifier cet ordre au plan théologique et comprendre l'ordre que nous prenons au plan philosophique. Je pars de la foi. La foi me montre que l'homme est dépendant du Créateur et qu'il doit reconnaître cette dépendance. Ça fait partie de la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Puisque l'homme dépend de Dieu, puisque l'homme a reçu gratuitement, puisque l'homme a reçu gratuitement de Dieu ce qu'il est. Donc il y a un dû. Il est un débiteur, comme créateur, comme créature, l'homme créature. Et cette relation de rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est la vertu de religion. Dans cet acte de dû, rendre à Dieu ce qui lui est dû, il y a un acte intérieur de dévotion. Qu'est-ce que c'est que la dévotion? C'est reconnaître qu'on est lié. Le dévot, il est lié. L'homme reconnaît qu'il est lié à Dieu, au Créateur. Donc une attitude intérieure affective. Et cette attitude intérieure affective va montrer nos déficiences, nos manques. D'où la prière. Comme cette attitude intérieure affective va impliquer aussi le point de vue du corps, on est donc en phase d'activité extérieure, l'adoration. L'adoration pour aller jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'oblation. Et on pourra offrir cela en vue d'obtenir de Dieu tel ou tel bien. Oui, l'organisation interne de cette dépendance à l'égard de Dieu. Le philosophe, lui. Le philosophe ne part pas de la foi qui me dit l'attitude religieuse et la vertu de religion. Le philosophe part de son expérience. Toujours. Quelle est la première expérience que j'ai à l'égard de ma dépendance à l'égard de Dieu? Pourquoi je prends l'adoration et non pas la dévotion? Je dis, l'adoration implique la dévotion. Je vous ai dit tout à l'heure que tout acte d'adoration implique cette attitude affective d'aimer ma dépendance à l'égard de Dieu. C'est ça la dévotion. Mais le philosophe ne parle pas beaucoup de dévotion. Et je comprends très bien pourquoi. Parce qu'il part de son expérience de reconnaître cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Or, si vous regardez ce que dit saint Thomas, c'est qu'il dit l'adoration implique le corps. Or, mon expérience interne et externe de dépendance à l'égard de Dieu, c'est bien dans l'adoration que je reconnais ma dépendance totale à l'égard de Dieu, dépendance dans tout mon être. Et c'est ça qui est premier, c'est de reconnaître cette dépendance. Donc, s'implique comme élément de l'adoration, la dévotion. Et aimer cette dépendance à l'égard de Dieu, c'est la dévotion. Mais je ne la regarde pas pour elle-même. Parce que ma grande expérience, c'est que tout mon être est en dépendance de Dieu. Je peux très bien, comme un élément de l'adoration, mettre la dévotion. Mais ce n'est qu'un élément. C'est l'expérience majeure, se noue autour de l'adoration. Et l'adoration va se continuer en sacrifice. Alors, c'est l'aspect liturgique. Et le philosophe étudie en premier lieu l'adoration comme un acte intérieur qui implique l'offrande du corps. Oui, l'intériorité du philosophe et l'intériorité du théologien n'est pas le même. On va regarder ça et réfléchissez bien là-dessus pour bien comprendre pourquoi je commence par l'adoration et non pas par la dévotion. C'est parce que j'ai parfaitement conscience de ma dépendance à l'égard de Dieu lorsque je l'adore. C'est là où la dévotion prend toute sa dimension humaine. Parce que la morale, l'éthique, consiste à regarder ma dépendance à l'égard de Dieu, l'expérience de ma dépendance, dans la lumière de la création. Et cette dépendance, elle touche tout de suite mon être. Mon être, c'est mon âme et mon corps. Si c'est mon âme et mon corps, je suis tout de suite en face de l'acte d'adoration qui me remet entièrement à Dieu. Mais cet acte d'adoration va impliquer cette intimité particulière de me dévouer à Dieu, c'est-à-dire de reconnaître ma dépendance à l'égard de Dieu.